care what y'all say.
Salut à tous, c'est Silver Knights pour le 4e épisode de la radio des Cahiers du Catch. Donc le thème du soir sera l'analyse des Money in the Bank et pour en débattre, je serai accompagné de celui par qui la spécialité belge est devenue la moule frite néon et que nous avons exceptionnellement arraché à son travail de booker à la TEW, j'ai nommé Canette.
How much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Salut à tous.
Oh yeah.
Moi je dis bravo. C'est une très belle introduction.
J'ai absolument rien compris mais bravo.
Il a bossé.
Et ça se voit. Donc sera également avec nous le plus lié au catch de tous les animaux. Ce n'est ni la vipère, ni le dragon. Mais c'est bien en direct de la bambouserie niçoise, le panda volant.
bien sûr, oui. What else? Who else, j'ai envie de te dire.
Eh bien...
C'est dur de faire une intro après Canette, hein. Franchement.
Ah, ça t'a coupé ta branche de bambou, hein.
Non, mais quand même, hein.
Non, mais quand même, ça sera suffisant. Ouais. Donc, nous accompagnera à nouveau ce soir le plus grand fan du Miz et chroniqueur de Next à la retraite. Il n'a pas attendu les 62 ans pour partir, DDS.
Salut à tous. Et après avoir détruit Kovacs et le Charentais, je viens pour apporter ma science au CDC.
Ouais, bah écoute, tu fais moins le malin, là, maintenant que t'es sur le podcast, là, hein.
Ça arrive.
Non, parce que...
Je les ai quand même détruits, hein.
Ouais, c'est pas ce qu'on m'a dit, moi.
C'est marrant, ils disent aussi la même chose. Bon, ouais, et pour finir,
ils ont fait une bonne mémoire.
On nous en reparlerons plus tard. Et pour finir, donc, celle qui nous a convaincu que la Belle et la Bête ne sont que les deux faces d'une même pièce, la princesse du codebreaker et du montage de podcast, j'ai nommé Sarah Gatina.
Salut à tous.
C'est marrant parce qu'avec cette intro, on aurait dit que t'annonçais Major Tom, en fait.
Non, lui, c'est juste la Bête, mais pas la Belle. Donc les absents excusés, Major Tom, Tsurugimi nous rejoindront bien sûr une prochaine fois et la porte est grande ouverte pour eux. Donc ce soir,
tu vous donnes ton chimio, c'est ça?
Oui, il a piscine en fait. Major Tom aussi, ils ont piscine tous les deux.
C'est un mec qui va se noyer.
Oui, c'est plus petit des deux. Donc ce soir, nous allons débattre des Money in the Bank. Donc, dans un premier temps, nous parlerons des matchs eux-mêmes. Ensuite, nous regarderons quel a été l'impact des victoires sur les carrières des catcheurs et les différents impacts qu'on peut constater avec la mallette. Et pour finir, donc, chacun des débatteurs nous donnera son Money in the Bank préféré. Et en conclusion du show, Panda nous proposera donc une nouvelle chronique intitulée « Les news en bambou ».
Yeah.
Donc, on commence avec les matchs eux-mêmes. Donc... Pour entamer la discussion, Sarah, peux-tu nous rappeler comment est née la stipulation Money in the Bank?
Avec plaisir. Alors, c'est l'invention d'un brillant esprit, qui est Chris Jericho, qui l'a inventé en 2005. Il a soufflé l'idée à Eric Bischoff. Voilà.
Eh bien, ça ne m'étonne pas que tu sois là pour nous rappeler cela. Donc, Panda, est-ce que tu peux développer un peu au niveau des différents matchs qui ont eu lieu dans l'histoire du Money in the Bank, ce qui t'a marqué, ce qui t'a plu?
Non.
Eh bien, dans ce cas-là, je me drape dans ma dignité dans le t-shirt de John Cena et je rentre chez moi. D'accord.
Ah non, bien sûr. Bah, donc, comme l'a dit justement Sarah, le MITB est apparu en 2005. Donc suite à une idée de Jericho qui en fait voulait proposer un challenge pour les meilleurs catcheurs dans des matchs à échelle. Et donc le premier a lieu en 2005, a été remporté par Edge, et qui ensuite cacha la mallette beaucoup plus tard sur John Cena en janvier 2006. Donc on peut retenir comme spot du MITV par exemple une affection particulière pour 2007 où Kennedy gagne la mallette avec un face-à-face assez énorme contre Hans Vogel en haut de l'échelle. Il y a aussi, je me rappelle plus très bien, c'était celui de cette année ou l'année dernière, à Mania toujours, où Christian... C'est un mouvement se récupère en fait sur la corde grâce à son pied pour, alors qu'il était en train de tomber. Et puis aussi le Big Show lors du pay-per-view MITB qui nous sort sa grosse échelle pour pouvoir décrocher la mallette, sachant qu'il détruisait les autres échelles.
Voilà. Et la grosse échelle, elle servait à rien en plus, parce que Mark Henry l'a réutilisée, il y avait 40 personnes sur lui et elle s'est pas écroulée, elle est normale.
Bah ouais, mais elle était là pour soutenir le Big Show quand même, il pouvait pas. C'est marrant de le voir détruire les autres déchets. Ouais,
mais ce qui est un peu chiant avec les Main Event de Bank, en tout cas, c'est de régler le nombre de participants. Parce que dans le premier, on a pu voir, il y avait 6 participants, et c'était chiant. Enfin, c'était chiant dans le sens où. Ce qu'il y a de bien dans le Main Event de Bank, c'est qu'il y a plus de. Il y a jamais de temps mort. Il y a toujours du spot en permanence. Le premier, bah, il y a eu 6 personnes, donc il n'y en a pas eu assez. Dans le dernier, au premier de cette manière, il y a eu 10 personnes, et 10 personnes, c'est trop dans un Main Event de Bank. On ne savait pas comment gérer les participants, etc. À ce niveau-là, c'était plutôt chiant. Donc 8 personnes, je pense qu'ils ont bien trouvé la formule.
D'accord, donc tu recommandes un retour à 8 personnes pour les prochains.
Ah oui,
prochains Main Event de Bank.
C'est non.
Gannett, ton éclairage et ton avis sur les matchs
Ouais, bah, moi, c'est pas une stipulation qui me plaît beaucoup, à vrai dire, parce que bon, c'est vraiment une stipulation de high player et de spot, comme TDS vient de le dire. Et ça, c'est pas du tout mon truc, en fait. Donc, vraiment, pour moi, c'est pas une stipulation géniale, à part le fait qu'elle permet d'avoir la mallette, qui est quand même un truc assez important pour avoir un titre. Le reste, pour moi, non, c'est pas vraiment une bonne stipulation.
Pas mal pour faire des feuilles aussi, hein, les mallettes.
Ouais, pour tout ça, oui.
Sans parler de l'après, là on parle plutôt des matchs. Voilà.
Oui, bien sûr.
C'est pas mon truc. C'est pas énorme, venir de mec, que ce soit Shelton Benjamin qui a la tête sur ce.
Sauter tout en haut, ou Hamas, d'avant. Toujours Shelton Benjamin qui court sur l'échelle, et qui m'a beaucoup de la corde à l'un, je gagne, ça prend le MITB, c'est. C'est quand même assez énorme, quoi.
C'est vrai que Shelton a eu pas mal de gros spots.
Ouais.
Il s'est souvent retrouvé, d'ailleurs, envoyé Valdinguer du haut d'une échelle. C'est même lui qui compte le plus de participation avec 5 MITB sur 10, quoi.
Ouais, ouais, c'est énorme.
On compte les deux du pay-per-view, ce qui est pas mal.
Ouais, ce qui est énorme. Et par contre, pour moi, le quand même, le meilleur spot reste... Green Bay Plunge de Kennedy sur Herzogel, comme tu l'as dit tout à l'heure.
Ouais.
C'était énorme, quoi. Personne s'y attend, et d'un coup il le prend sur ses épaules et plonge en avant. Surtout qu'il a bien morflé aussi Kennedy quand il l'a fait. Donc,
moi, les mecs, je préférais quand même la boom drop de Kingston sur Drew cette année.
C'était moins spectaculaire.
Ouais, bah, il passe à travers le table, ça me suffit.
Sinon, après, dans les pires moments, puisqu'on parle du Mania de cette année. C'est quand même Swagger qui met 30 ans à décrocher la mallette, hein, ça...
Il y a un con, ça marche un peu ce que...
Ouais, voilà, je sais pas s'il a dû avoir un problème ou quoi, mais il a vraiment galéré.
Il a raison, c'est clair. Bah, d'ailleurs, tout le monde pensait qu'à ce moment-là, il allait pas le cacher, que quelqu'un allait venir pour le prendre à sa place.
Voilà, bah ouais, vous pouvez penser à un work, effectivement.
Ouais. Et, surtout ouais, que c'est un mousque de tout, quoi. Enfin, même s'il est un peu serré, il suffit d'appuyer dessus, donc...
Il a l'air d'un con, ça change pas.
Et sinon, vous avez pas mentionné le saut de Jeff Hardy sur Edge, avec
Rex,
qui reste un Oh My God moment historique.
Ah, mais clair.
C'est là que tu vois que les MITB, c'est vraiment pour les high flyers et les mecs et les amateurs de spot. Bien que
Et les gars suicidaires aussi, un peu, parce que...
Oui, voilà.
Ouais, les extérieurs, quoi.
Enfin,
ouais.
Pour être high flyer, faut quand même avoir aimé le risque, hein, quand même.
Quand on est catcheur tout court, en fait, parce que
oui.
C'est un high flyer qui sait ce qu'il fait, il a pas de problème en général.
Enfin, ouais, c'est pareil.
Ouais, mais il peut se blesser plus facilement.
Un risk taker et pas forcément un high flyer, j'ai tendance à dire.
Ouais, c'est vrai, parce que.
Autant qu'il tu vois, Kane dans MITB, quand tu fais les MITB, il est vraiment là voilà, pour amener sa force. Mais c'est pas lui qui fait les segments les plus mémorables.
On peut voir la pose de Silver en même temps qui nous a mimé Kane de très belle manière.
Et qui fait très bien Kane.
Ouais. On enchaîne.
Bah non, avant ça, je voudrais quand même parler de tous les botches qu'on a eu au dernier WrestleMania. Qui étaient botch attack. En fait, ce que faisait Shelton en grimpant par exemple sur l'échelle.
Kofi a essayé de le faire, sauf qu'il s'est planté au milieu de l'échelle. Il a pas réussi à grimper entièrement. Donc ça a fait des bugs, on a eu des teints, des comme ça. On a eu des spots qui n'étaient pas si géniaux que ça en plus. Le match n'était pas très très bien construit.
Ouais, le dernier était pas génial, génial.
Ouais, je trouve un peu sévère. J'avais bien aimé.
C'est de la semaine.
Disons que c'est là que Kofi avait. Il était décevant par rapport aux autres.
C'est là qu'il avait comme des chasses, il y avait 2-3 choses originales de ce tonneau-là qui... C'est ouais, mais... certainement pas le meilleur Money in the Bank, ça c'est clair.
Oh, c'est même le pire, hein. Je pense qu'on peut le dire, hein. Du coup, il était énorme, franchement, quand tu compares
aux autres... Le pire, mais ça reste un bon petit match quand même. C'est juste pour si tu compares par rapport
aux autres MTB.
Oui, oui.
C'est le meilleur, The Beyond the Stage, of the Moon, l'accent de...
Et Canet, tout à l'heure, tu parlais de la... Enfin, toi, de mémoire, tu affectionnes un peu plus la construction des matchs que les spots, le fait que tu n'aies pas aimé. Dis-moi si je me trompe. Les deux derniers, Money in the Bank, que ce soit celui de Raw ou de SmackDown, enfin, particulièrement SmackDown, d'ailleurs, était quand même assez bien construit avec l'alternance des temps forts. Je sais pas, ça n'a pas tendance à te réconcilier un peu ou c'est définitivement pas ton truc.
Non, franchement, non. Ça reste pour moi vraiment une stipulation... de High Flyer, justement. Donc, oui, il peut y avoir de la construction, mais la construction pour amener les spots, non, c'est pas vraiment mon truc, quoi. C'est tout.
Parce qu'en général, on reproche aux spots de pas avoir de construction. Sauf que le WrestleMania, c'est juste pas le bon endroit où les spots ont la construction.
Ouais, et après, c'est quoi en fait? C'est juste que t'aimes pas les High Flyer en général? Ou
c'est ça.
Ah, bah voilà, c'est juste.
Ah, voilà, c'est pour ça que ça peut
pas être. La... Ok.
C'est tout.
D'accord, bah les goûts et les couleurs, comme quoi, donc je pense que...
On peut pas trop débattre là-dessus, hein, s'il n'aime pas la Highflyer.
Exactement, je pense qu'on peut passer donc à la seconde partie. Après cette première partie qui concernait les matchs, nous allons donc parler des storylines plutôt et de l'impact que peut avoir le Money in the Bank et la mallette sur la carrière d'un catcheur. Donc Canette, justement cette partie-là t'intéresse plus que les matchs eux-mêmes.
Exactement. Donc pour moi, la mallette sert à avoir un titre, déjà, mais ça ne fait pas un main eventer. Le seul main eventer qu'on a eu grâce à la mallette, c'est Edge. Et bon, ça fait partie de sa gimmick, quoi. Ça a amené sa gimmick. Mais ça ne fait pas. Enfin, pour tous les autres,
je suis absolument pas d'accord. Je suis absolument pas d'accord avec ça. Punk.
Non, mais ce n'est pas un main eventer pour le moment.
Punk n'est pas main eventer pour le moment, je suis plaisant.
Attends, Canette, laisse-le. Moi aussi, je suis pas trop d'accord, je suis plutôt sceptique sur Punk, mais laisse TDS en placer.
Punk, son premier règne était certes à chier, mais le deuxième qu'il a caché sur Jeff Hardy, il était génial. Il était génial et ça a fait de lui en main eventer pendant des mois, et c'est juste parce qu'il a mal parlé à l'Undertaker qu'on a débouché. Et c'est un main eventer, Punk.
Le problème, si tu veux, TDS, c'est que je trouve pas que CM a eu. Ça l'a révélé au jeu du grand public, ça c'est clair. C'est à ce moment-là, lorsqu'il a eu sa première victoire, qu'il est passé de l'ancien de la ROH qui se formait dans la WWE ECW, à quelqu'un de connu et de...
Portant le titre majeur, hein, tout simplement.
Ouais.
Voilà, mais ça l'a pas, pour moi, ça l'a pas installé pour l'instant durablement dans le main event. Après, et là, c'est à notre point, CM a totalement, complètement la carrure du main eventer. Ça, il n'y a pas de souci.
Ça l'a installé dans le main event.
Il a. Non, mais là, actuellement, je peux pas dire que ce soit un main eventer.
Non, mais là, il est commentateur.
Il peut rater son turn, il peut être blessé 6 mois. Ça reste un main eventer. Punk actuellement ne l'est pas, il a perdu ce statut.
Non, je suis absolument pas d'accord. Pour moi, Punk, c'est la même chose que Jericho, il peut passer de l'intercontinental au WFC sans problème.
Ça fait un an qu'il est pas main eventer.
En un an, je te rappelle qu'il a eu des feux d'achat de la SS.
À la différence que Jericho a quand même eu des matchs mémorables en main event, ce que Punk n'a pas eu.
J'ai rien dit, excusez-moi, j'ai rien dit. Mais encore une fois,
il a le potentiel pour, il n'y a pas de souci. Il a fait avec Samoa Joe à la ROH.
Je me permets de vous interrompre un petit peu là-dessus, étant donné que là on glisse plutôt sur qu'est-ce qu'un main eventer finalement, c'est la question sur laquelle nous sommes en train de débattre et on n'est pas forcément sur la stipulation Money in the Bank, donc savoir plutôt dans quel sens ça a modifié, enfin dans quel sens est-ce que ça a pu projeter Edge au statut de main eventer et approcher peut-être Punk sans pouvoir l'atteindre ou pas définitivement du statut.
La grosse différence, c'est que Edge était booké avant ça. Il a été très 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 bien booké, il a été mis over pendant toute l'année précédente son Money in the Bank. Alors que Punk, non, il est arrivé, il a débarqué avec une mallette, il a caché, il est devenu Money in the Bank un peu. C'est sur son deuxième cache que Punk est devenu Money in the Bank.
Je rappelle que. Oui, vas-y.
Non, vas-y, vas-y.
Je veux juste dire que Edge, lui, a vraiment caché très tard. C'est celui qui a attendu le plus longtemps. Donc ce qui fait qu'il a pu mettre plus la pression sur le porteur du titre mondial comme Miz l'a un peu fait cette année. Après,
il y a eu un booking en fait. C'est ça le truc, c'est que quand avant ça, je rappelle que dans l'année avant son Money in the Bank en 2005, Edge a eu trois grosses feuds, dont une que tout le monde a oublié avec Shawn Michaels. Mais il a eu trois grosses feuds, celle de Kane, celle de Shawn Michaels avant qui a donné des super matchs, et surtout celle de Matt Hardy qui était énorme, meilleur fête de l'année 2005.
Et celle de Matt Hardy qui a mené à une défense, la première défense de
Là, vous parlez de deux choses différentes. Vous parlez de ce qui a eu lieu avant le Money in the Bank, ce qui a eu lieu après, une fois qu'il avait la mallette.
Je voulais faire le parallèle avec CM Punk, parce que CM Punk, lui, il a eu quoi comme booking avant son Money in the Bank?
Il a été champion ECW.
Est-ce que vous le connaissez?
C'est ce que j'ai dit il y a quelques minutes. C'est en gagnant la première mallette qu'il est passé d'un mec connu par les amateurs indie tout ça à quelqu'un connu le mainstream.
Punk était quand même super apprécié au début. Je me rappelle le match en équipe. Je crois que c'était au Survivor quand il était dans l'équipe DX.
On le voyait moins quand même.
Le voyait beaucoup moins, c'est à son draft. Mais le cash-in a peut-être été fait trop tôt en fait. Le seul truc, c'est qu'on a foutu Triple H et Edge à SmackDown ensemble et il fallait débarrasser SmackDown dans des titres mondiaux. Et la mallette, c'est le meilleur moyen de le faire.
Après, vu qu'on parle de CM, son deuxième turn a quand même entraîné. Son deuxième cash, pardon, a entraîné un turn.
Un turn magnifique.
Ouais, sans doute une des feux et un des Omen Gottman de l'année pour l'année 2009, effectivement.
La feud, elle était énormissime. Je me souviens encore de tous les Jeff Hardy, CM Punk avec tous les gosses qui y croient à fond, etc. Et tout ça grâce au Money in the Bank, en fait. Parce que sans le Money in the Bank, il n'aurait pas pu cacher au moment où Jeff avait remporté. Voilà, le Money in the Bank sert aussi à créer des bonnes feuds. Avec un turn dans ce cas-là.
Pas créer des main eventers, c'est tout. Ça crée des bonnes feuds peut-être. Sur le moment, c'est intéressant, mais après, ça va pas créer un main eventer.
Après, il suffit de regarder après les vainqueurs. Tu regardes, il y a RVD, qui fut le deuxième vainqueur en 2006. C'était quand même quelqu'un qui avait l'essentiel de sa carrière derrière lui, qui est un ex-ECW. Et qui. Donc, ça l'a pas amené au statut de main eventer. Hein. En plus, quand il a récupéré le titre contre Cena, il s'était fait gauler avec sa boue parce qu'il avait eu de la Marie-Jeanne sur lui. Donc, ça l'avait complètement décrédibilisé après. Et ça avait provoqué la perte de son titre. Ensuite, tu as Kane, qui lui aussi, Kane, tout le monde le connaissait quand il a gagné la mallette. Et Swagger, lui, après Mania, a eu un règne horrible. Mais vraiment.
Ouais, mais c'est pas de sa faute. Il avait une kit de malade. C'est les bookers qui se sont totalement foirés. Je le disais déjà dans le dernier podcast, mais lui, il avait vraiment un truc. Hein. Il avait vraiment un truc. Quand tu vois la feuille, justement, il s'est pris une kit de malade mental en le 30 avril.
Les Swagger Facts ont beaucoup apporté, je pense.
Exactement. Bon, en tout cas, le 30 avril 2010, si vous regardez le SmackDown de cette époque, il a fait la pire hit depuis Vicky Guerrero avec la Familia. Et ça, c'est quand même énorme. Ça, c'est quand même énorme de pouvoir dépasser Vicky Guerrero à ce niveau-là.
Ouais, mais ça n'en
pas c'est les bookers qui se sont foirés. Les bookers ont foiré, t'as vu comment ils ont presque un show.
Ah bah oui. Mais bon, en même temps, c'est pas évident de
ça aurait presque un show. Ça aurait pu. Je suis persuadé que ça aurait pu faire un main eventer. Mais c'est là, pour le c'est les bookers qui font foirer.
Franchement, j'ai pas trouvé ça si mauvais face au Big Show. Enfin, c'est un des rares sur la dernière année à avoir fait du mal au Big Show avec son Uncle Lock. Ouais. J'ai trouvé ça pas si mal.
C'est un champion du monde, il est pas censé lui faire du mal, il est censé lui mettre sa race.
Ouais.
Sauf quand t'es heal, quand tu es un heal, t'es pas ultra dominant.
Ok, alors tu verrais Sheamus à la place de Swagger. Est-ce que honnêtement les matchs ont
été. Sheamus, quand il a été champion du monde, il a eu des matchs qui a été des victoires de bras courts.
Énormément.
Il n'a pas eu de victoires marquantes. Ouais. Il a eu deux runs et c'est pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bousillé Triple H.
Ouais. Ouais, c'était enfin, hors run de champion en plus.
C'était hors run de champion, voilà.
Avec la ceinture, il a gagné plus ou moins grâce au Nexus. Il avait fait abandonner une fois. Enfin, il avait connu une conservation contre Cena sur DQ en prenant l'arbitre et en jetant. Enfin bon, contre Orton, c'est grâce à la DQ du duo Legacy qui retain. Enfin, il y a quand même pas mal de faits. Les règnes heal en général, ils sont quand même assez moches, quoi. Ouais, c'est dommage.
C'est dommage, surtout pour Swagger après son Money in the Bank, c'est dommage.
D'ailleurs, puisqu'on parle de heal, c'est souvent les heal qui gagnent ou alors qui turn, enfin les face qui turn en heal après un MITB.
Ouais.
On pourrait gloser sur, enfin, débat sur le statut de Kane quand il a gagné le MITB. Mais bon, pour moi, ça reste un heal. Hein.
Ouais, il marquait.
Culture à ce moment-là, mais.
Il marquait les uns quand même à ce moment-là, Rey Mysterio hein, quand même.
Voilà.
C'était pas avant quand il l'a accusé d'avoir mis le Taker dans un état végétatif.
Il a accusé tout le monde à ce moment-là. C'est après qu'il s'est basé sur Rey Mysterio.
Bah, il était twin alors.
Oui, tout à fait. Voilà, je suis plus de cet avis-là et qu'il a clairement turné heel quand il a eu cette manette.
Ok, ouais.
Parce que évidemment, quand tu vas faire un cash. C'est souvent quand le champion est à terre, mais même plus bas que terre. Par exemple, quand Edge a eu ses deux caches, il a fait sur Cena qui sortait de l'Elimination Chamber. Donc, ouais. Cena n'était pas au mieux de sa forme. Et quand il a fait sur le Taker sortait d'un Steel Cage contre Batista. Et après, il avait dû subir la furie de Mark Henry qui faisait son retour et qui avait envie de montrer qu'il était là.
Mais le Money in the Bank, c'est clairement un concept fait pour Edge. L'opportunisme à l'extrême. D'ailleurs, Edge est impliqué dans presque tous les caches, sauf les deux derniers où la manette a été récupérée dans le pay-per-view.
Ouais, c'est vrai que soit il intervenait, soit il subissait, soit il faisait le cash-in.
Ça lui a lancé sa carrière en solo.
Et ça l'a surtout créé comme l'opportuniste.
Voilà, c'est l'ultimate opportuniste. Quoi. Il arrive, il cache sur Cena. C'est vraiment parce qu'il était à la WWE depuis 7-8 ans à peu près.
C'est ouais, bah, on a dit qu'il avait compris 7 ans. Ans. Oui, c'est ça.
Depuis 7 ans en fait.
Mais bon, il avait surtout fait des matchs par équipe avec Christian notamment, ou avec Orton, je crois aussi, c'était après Orton.
Non, Orton c'était en 2007. Il a fait un run solo de 2001 à 2004, on va dire, avec quelques fois il se réunissait avec Christian.
Ouais,
et en 2005, il a vraiment explosé en solo. Mais on va dire 98-2001, c'était du tag team. Voilà, ils ont essayé tout seul, ouais. Il a foiré en 98, donc on l'a foutu avec Gangrel.
Ça a vraiment lancé sa carrière.
Ouais, il était pas génial.
Mais d'ailleurs, souvent les catcheurs qui font leur cash ont leur premier run avec le MITB. Hein. Que ce soit Edge, Punk, Kane c'était le deuxième, mais son premier n'avait duré qu'un jour.
Swagger, Miz.
RVD,
c'était son premier titre aussi.
C'était pas un vrai titre. On peut vraiment dire que c'est le premier pour Kane.
Oui, mais il compte quand même dans les stats.
Ouais, il compte.
Voilà, c'est ça. Il est à deux titres. Même si son premier titre
était. C'était un faux titre.
Ça compte.
Non. Après, c'est dans les stats.
Bah écoute, à ce moment-là, t'enlèves André The Giant qui a eu le titre qu'une minute.
C'était booké. Alors que Kane, c'était pas booké.
Booké ou pas booké, ça compte quand même.
On est d'accord que ça compte, mais c'est vrai que les circonstances d'avoir le titre qui n'était pas voulu et de l'abandonner le lendemain.
Oui, voilà.
Ça reste je rappelle les faits, il y a eu enfin un spot match que Undertaker a tapé trop fort sur Austin, donc Austin a saigné, il a perdu le titre face à Kane. Et il aurait dû le conserver normalement.
Et le lendemain, il récupérait après un booking un petit peu fait à l'arrache.
Totalement ouais. Fait à l'arrache, mais bon.
Bon, en revanche, on peut noter aussi un truc, c'est que les règles, à part Kane qui est en train de tout exploser, les règles sont généralement assez courtes. Hein.
Ouais, sauf que ça fait pas de main eventer, justement.
Voilà, et ça, ouais.
Le premier main event, c'est 3 semaines.
Voilà, ouais, et encore, Edge l'avait perdu à la première défense.
Bah oui.
Si je dis pas de bêtises.
Oui, c'est ça. 21 oui, jours, et il perd contre Cena au Rumble.
Rumble,
Ouais.
Après, Punk l'avait gardé 69 jours la première fois et 49 la seconde. Et il a eu seulement ses deux titres mondiaux grâce au MITB. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas dire que c'est un main event, d'ailleurs. Parce qu'il n'a pas gagné, le titre à la loyale. Et profitons d'ailleurs, je tiens à marquer une pause juste à ce moment-là. Car au moment où on enregistre le podcast, fête son anniversaire, donc souhaitons-lui un bon anniversaire.
Bon anniversaire, TDS.
Bon anniversaire, TDS. Merci. On chantera en fin d'émission, mais on va pas infliger ça à nos auditeurs.
Ouais. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Marc.
Donc,
on peut parler du règne de Kennedy aussi, avec son MITB.
le fabuleux règne de Kennedy.
Le poisson de la WWE qui avait gagné à la base donc MITB. Et qui ensuite le perd contre Edge, mais alors juste parce que Edge lui lance un défi, Kennedy l'accepte, et juste au moment où Kennedy se pointe pour le match, la semaine d'après, Edge se jette sur lui, lui fait un méchant beatdown, et après le match commence, et Kennedy bien sûr foire. Alors pourquoi ça avait été bouclé ainsi? Parce qu'il y avait des soupçons de blessure sur Kennedy, et en fait...
C'était pas vraiment des soupçons, c'était juste très mal diagnostiqué. On avait affirmé qu'il était vraiment blessé et qu'il en aurait pour 6 mois pour s'en remettre. Et au bout de 2 semaines après qu'il ait perdu son money de bank et qu'il ait été caché, on lui a dit bah en fait non.
Voilà,
il a eu vraiment la poisse.
Non, mais.
Ouais. Il a vraiment pas de chance.
Ah, mais totalement. C'est un poisson total.
Il tue des catcheurs. Hein. Le dernier avoir combattu Umaga.
Les deux sont morts le lendemain.
Ouais, et Guerrero aussi.
Ouais, Eddie ou Maga. Enfin, Guerrero ou Maga, ouais.
Ouais, bah, il porte la poisse.
C'est vrai que c'est un sacré nuage noir, ouais.
Donc, ce sera à cause de lui que la TNA va couler.
Ouais, à cause de lui que t'es perdu.
Sûrement, ouais. sinon, au niveau des gâchines, le gâchine du Miz a peut-être été un petit peu plus, on va dire, disputé que les autres. Enfin, c'est pas si évident que ça qui conserverait. Tiendrait sa victoire, on va dire.
Ouais, c'est clair. C'est clair que celui du Miz a été le moins attendu en fait, parce que tout le monde pensait qu'il allait foirer. La WWE a très 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 bien joué le coup, à savoir qu'elle a balancé des fausses rumeurs du genre si on lui faisait rater The Miz serait énervé, mais Mike ça ne dérangerait pas, et plein de petites phrases comme ça qui ont fait que on allait, enfin tout le monde pensait qu'il allait le foirer. En plus de ça, comme Orton n'était pas si KO que ça, en fait. Ok, il avait mal à la jambe, mais il était encore un petit peu frais.
Ouais, il avait juste mal.
C'est sûr, mais il n'était pas dans le même état que l'Undertaker. Il était juste une jambe en moins. Il me disait qu'en ce moment, c'est Superman, il va peut-être le battre. Pour tout vous dire, j'étais un peu excité pour le match à me demander s'il allait le faire ou pas.
Oui, la tribune et le forum s'en souviennent.
Oh, ce n'est pas la peine de... On peut tourner la page. Non, et sinon, le second règne de Punk, justement, fait un petit peu penser, en moins bien construit, à la victoire du Miz, quoi, la victoire sur Jeff Hardy, où il est quand même debout après le cash-in. Il encaisse le meilleur de Good to Sleep et il se frite un tout petit peu entre les deux Good to Sleep. Quoi. Donc, bon, c'est moins bien foutu.
En tout cas, pour Punk, vous savez qu'il allait le gagner. Alors que Miz,
pas sûr. C'était sa deuxième mallette. Et il y avait quand même quelques rumeurs pourquoi il allait rater justement celle-là.
C'était des petites rumeurs, peut-être plus modifiées derrière, juste avant.
Ouais,
je rappelle qu'il était sauté d'une super haute échelle Jeff Hardy juste avant.
Ouais,
c'était totalement différent. On peut dire que celui de lui, ça a vraiment été le plus surprenant du ratage, je peux dire.
Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour pour ce qui concerne l'impact, donc on peut passer à la dernière séquence. Donc pour finir, après une première partie où on parlait des matchs et une seconde où on parlait de l'impact, on va tous pouvoir donner notre avis sur quel a été notre cash préféré et pour quelles raisons, et puis nos coups de gueule aussi concernant le Money in the Bank. Donc TDS, je te laisse commencer.
Donc c'était CM Punk, non je déconne, c'était le Miz il y a deux semaines en fait, qui a remplacé ce Money in the Bank qui était juste le meilleur, mais on va dire qu'au niveau du build-up c'était celui de Edge qui était le meilleur, qui était le mieux préparé, etc. Donc on va dire que celui de Miz, entre guillemets sentimental, au niveau du build-up, etc., je dirais celui de Edge quand même.
D'accord, et un coup de griffe peut-être
Mister Kennedy, parce que j'étais quand même pas mal marqué de lui à cette époque-là et j'espérais vraiment le voir remporter la ceinture et il a eu la fausse blessure.
C'est vrai que voilà. Ça.
Ouais, il a été tiré jusqu'à rien aussi. Après un seul match.
C'est ça.
Ça restera un moment fort. Yannette, ouais. ton coup de cœur, ton coup de griffe
Mon coup de cœur, ça va être Kane pour moi. Déjà parce que c'est un de mes catcheurs préférés simplement. Et ensuite parce que c'est clairement le plus crédible qu'on a eu jusqu'à présent en fait, tout simplement. Ça l'a vraiment relancé dans le main event. Son règne est très crédible, donc il va sûrement bientôt se finir, mais bon. Sinon après le coup de griffe, je dirais plutôt le premier cash-in de CM Punk en fait, qui est pour moi génial parce que le règne qui s'ensuit déjà n'est pas génial en lui-même. Et la façon dont il cache aussi très heal alors qu'il est pris à ce moment-là. Même si c'est sur Edge, pour moi, c'est vraiment pas un cash-in idéal. Ouais.
Non, je suis pas d'accord hein, parce que le mec était quand même. C'était un heal. Hein, excusez-moi, Edge était quand même plutôt heal à ce moment-là et tout le monde était très content de voir débarquer CM Punk en
RLC.
C'est
un côté rafraîchissant. J'ai bien aimé le cash de Punk parce que le premier. Bah, parce que ça a apporté un peu de changement là. À la WWE, surtout que Punk à la base il vient de l'Indie.
Ah ouais, à ce niveau-là, c'était pas le contraire. Hein,
ouais, la façon dont ça a été fait en fait.
Voilà, c'est ça, la façon Edge qui vient et qui se fait beatdowner comme pas possible par Batista, et juste derrière Punk qui vient en opportuniste. Voilà.
Ah ouais, mais c'est ça le MITB qui se prend l'opportuniste. Si on regarde le deuxième cash de Edge, c'est sur le Taker qui vient de se prendre Batista et marquant
ouais, Edge Hill, c'est pas pareil que Punk. Punk est Edge Hill à ce moment-là.
C'est pas grave. Mais
c'est bien quand il y a des fesses qui agissent comme des salauds.
Je me permets de vous interrompre, nous sommes dans la séquence coup de griffe, coup de cœur. Panda, justement, tu veux parler, eh bien tu vas pouvoir nous donner ton coup de griffe et ton coup de cœur, ça tombe bien.
Et j'ai donné mon coup de cœur en parlant du cash de Punk.
Parfait.
Le premier. Et aussi, j'ai bien aimé le deuxième cash de Edge, même si j'ai eu deux hookers parce qu'il avait pris la mallette à Kennedy, que j'apprécie beaucoup. Et c'était sur le Taker qui est le premier catcher que. Le catcher qui m'a fait découvrir le catch. Donc. J'avais un peu mauvais sur le moment, mais bon, c'était quand même un assez bon souvenir. Sinon, après, dans les caches qui m'ont. Disons que, à la base, j'avais pas aimé Swagger qui gagne le MITB, déjà parce que j'avais pas pronostiqué lui. Dans
le
fond,
je mettais mon sang de base.
Mais surtout, je. Franchement, je n'ai pas trouvé. Enfin, j'ai pas trop aimé Swagger, quoi, voilà.
Bah, Swagger, ça veut dire que deux mois plus tôt, il est jobé pour cette soirée-là.
Voilà.
Là encore, le build-up.
Il est pas crédible, lui.
Du tout, non. Mais plus le build-up est dansé derrière, meilleur le règne. Enfin, en tout cas, plus crédible est la personne. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je pense qu'on va avoir un build plus crédible dans les semaines à venir.
Ouais. Mais il y a quand même sa démarre, comme quoi il va être vraiment mauvais comme champion. Hein.
Ah ben, bon. Si son règne dure 21 jours, comme certains des autres règnes, il a déjà fait la moitié de son règne aussi. Enfin, je lui souhaite pas, hein, mais.
Non. Bah, ce sera déjà un grand pas.
Ouais, ah oui, pour son, ne serait-ce que pour son palmarès, effectivement.
C'est
extraordinaire. Il y aura plus. Il ne pourra plus le wisher Good Luck. et son future était... Alors qu'avant, qu'il n'avait pas, quand il n'avait pas le chat, c'était...
Oui,
c'est
enfin,
pas clair, c'est
même pas... Il y a eu une petite coupure, en fait, mais...
Ah ouais, il y a une coupure.
Là, en gros, on ne pourra pas le virer, quoi. On ne pourra pas le virer, alors qu'avant, on pouvait le virer. Parce qu'on ne le trouve pas les champions du monde. Hein.
Oui, oui. C'est vrai.
Ça bon, dépend ouais. Comment est apprécié le champion du monde.
Si, le titre de champion du monde donne quand même un statut à WWE qui te protège oui. Sur le long terme. Ça... Ouais. Bon, il suffit d'une exception que ce soit créé, mais honnêtement, je ne fais aucun souci pour Mise, vu ce qu'il représente.
Voilà. Il est très médiatisé, hein, mais...
ouais. Oui, non, Mise, il est là pour durer, ça c'est clair.
Ouais.
Pas en tant que champion, mais la WWE, ça, il n'y a pas de souci.
Ouais, c'est le médiaman aussi. Ouais, ça c'est cool. Il fait des très bonnes interviews.
Il fait des très bonnes promos au Kids Choice Awards.
Ah ouais, il était génial la promo des Kids Choice Awards.
Les gars,
ça on va se ouais.
Quand même.
Et donc, au niveau des avis, coup de griffe, coup de cœur, Sarah, qu'est-ce que t'as retenu sur le Money in the Bank, toi?
Alors, mon préféré, le premier de CM Punk aussi. Avec,
ah oui, c'est intéressant, ça.
Ouais, ouais, je m'y attendais pas du tout sur le moment. En plus, j'étais en live. Ouais, j'ai bien aimé. En plus, c'est un peu ironique vu qu'il encaisse sur Edge, l'opportuniste. Voilà. Et celui-là du Miz, le dernier là, j'ai bien aimé aussi.
D'accord. Et au niveau des coups de griffe, qu'est-ce qui vraiment t'a déplu?
Swagger, parce qu'il a caché sur Jericho.
ça tombe assez bien. Je me demande pourquoi j'ai posé la question, tiens. Donc ouais, bah, je vais me permettre de donner mon avis, vu qu'on me le demande pas, je trouve ça très bien. Donc moi, personnellement, au niveau des coups de griffe...
On peut le demander pas, c'est qu'il y avait une raison.
Justement, c'est pour ça que je le donne, monsieur. Parfaitement, juste pour vous embêter. Donc, au niveau des coups de griffe, je mettrai RVD, parce que pour moi, utiliser un Money in the Bank pour avoir un match classique, ça a pas vraiment de sens. Même dans le contexte où c'était, c'est-à-dire pay-per-view CW avec le titre majeur de la WWE et l'intérêt que ça avait, je le comprends bien, mais je trouve que ça a été une mauvaise utilisation de la mallette. Et puis par contre, bah, au niveau des coups de cœur, le concept du Money in the Bank de manière générale qui apporte une surprise en termes de fonctionnement et un rebond dans n'importe quelle storyline, c'est pour moi un très gros concept et peut-être la plus grosse innovation de ces 5 dernières années finalement. Enfin...
Ouais, donc du coup, ton avis, qu'est-ce qui va se passer avec la présence du pay-per-view? Est-ce que tu crois qu'ils vont maintenir le Money in the Bank à Mania ou... Est-ce que tu penses qu'ils vont tout garder comme ils ont fait cette année en fait?
Très bonne question, et puis je vais reprendre mon siège de maître de cérémonie et m'envoyer la parole et dans mon mec.
Ah, tu as voulu donner ton avis, hein?
Ok, d'accord. Mais, la question se pose déjà l'an dernier, si on regarde bien. On savait déjà qu'il y aurait un peu perdu Money in the Bank avec deux mallettes, et pourtant ils ont conservé le Money in the Bank à Mania, étant donné que ça a quand même une shock value vachement importante et que ça donne plus value. Donc je pense que le jour où ils l'enlèveront, c'est qu'ils devront vraiment trouver un truc important pour le remplacer, quoi.
Ah, le problème, c'est moi je vais redire ce que j'avais dit pour le Hell in a Cell, c'est que je vois pas l'utilité de faire un pay-per-view à côté, parce qu'en plus ça fait trop. C'est trop de MITB.
Tu sais que t'auras 3 champions par an. Ouais, tu sais que t'auras 3 nouveaux voilà. Gars qui débarquent et qui seront champions. Alors que 2 persos, je trouve ça bien.
C'est, voilà, c'est ça. Pas trop. Soit tu fais deux, le pay-per-view, soit tu en fais qu'un à Mania. C'est
exactement.
Ça.
Exactement. Franchement, je fais ça. Ce problème, c'est que le Money in the Bank, c'est quand même le meilleur opener possible à Mania. Quoi.
Ouais, tout à fait.
Ah oui, c'est
il va
ça,
falloir
c'est
faire
ça.
Un choix.
C'est, t'enlèves ça. Mais c'est pas grand chose à Mania, on exagère.
Mais... Ouais, le mec qui exagère pas du tout, quoi.
Ah, parce que bientôt il y aura plus la streak du Taker, donc t'enlèves le début, t'enlèves la fin.
De toute façon, la streak du Taker, c'est comment se finit.
Ouais.
C'est comment se finit le match.
C'est un autre sujet.
Tout à fait, bah, je pense qu'on a fini donc sur tout ce qui concerne le Money in the Bank. Donc nous allons pouvoir passer à la chronique suivante. La chronique donc des news de bambou.
Et donc pour ça, je me prépare.
Oh oui! Fantastique!
Ah, j'en étais sûr.
Pour dire, en fait, on a un panda qui est en face de nous et qui a mis le costume du panda sur lui, donc.
Il s'est pandaïsé.
En fait,
Exactement.
pour faire ma chronique, j'ai mis une espèce de chapeau en tête de panda. Si vous voulez, je posterai une photo sur le forum pour que
Je vais
vous
faire un
donniez
print screen pour l'information. Merde, on voit pas.
Voilà.
Bah, vas-y, tu peux te lancer pour ta chronique, du coup.
Ok, donc les news en bambou. Donc, la première grande news de la semaine, c'est bien entendu le départ de MVP de la WWE qui a eu lieu donc ce vendredi. Donc, il a précisé aujourd'hui que sur son Twitter que ce n'était pas un renvoi, mais un départ à l'amiable. Donc, car Montel voulait tenter une carrière internationale. Donc, il y a des rumeurs de lui au Japon. Bon, pour l'instant, c'est pas dit, c'est pas définitif. Et donc, à noter que ce départ n'avait surpris personne en backstage, car c'était connu de tous qu'il souhaitait partir. Jericho avait d'ailleurs demandé via Twitter il y a quelques jours, la semaine dernière je crois, si MVP faisait encore partie de la compagnie. Donc, sur quoi MVP était resté assez vague. Donc, voilà.
Ouais, effectivement, il aura eu plus de facilité à partir que Matt Hardy, en tout cas, qui a galéré pour se faire virer pendant plusieurs semaines.
Voilà,
lui,
il a fait tout un tas de vidéos.
Et Matt Hardy, il a vraiment. Je me demande comment ils ont pu conserver alors que le gars s'en fout totalement, quoi. Enfin, je sais pas si vous avez vu le ventre qu'il avait à la fin de ses. À la fin. Matt Hardy, il avait pas le numéro 14 au Rumble.
Oui, et c'est d'ailleurs, vrai. MVP avait le 14 au Rumble. Donc, ensuite. Comme vous l'avez noté, Miz est devenu champion du monde la semaine dernière. Donc Randy Orton, par cette occasion, entre dans le top 10 des catcheurs ayant conservé le plus longtemps le WWE Championship en termes de règne compilé. C'est bien dit compilé. Hein. Avec 421 jours au total, il devance Shawn Michaels qui est resté à 396 et se place derrière Randy Savage Macho Man qui en compte 520 jours. Donc il a encore du temps, il a encore de la marge. Le leader du classement est toujours, et pour encore un bon moment, Bruno Sammartino avec 4040 jours, en deux règnes, quand même pas mal, devant Hulk Hogan 2185 jours, et Bob Backlund 2138. Le tout en deux règnes,
c'était pas la même époque.
3 jours.
Ah, c'était pas la
même époque. Après, en termes de catcheur en activité, donc le premier est entre guillemets John Cena avec 949 jours devant Triple H 539. Orton est troisième.
Ça concerne que les titres WWE ou aussi le WHC
que le WWE Championship.
D'accord.
Miz a gagné la ceinture la semaine dernière, c'était à Orlando. Lors de ce même Raw, donc un fan assis en ringside se serait pointé habillé en Hulk Hogan. Ça, faut le faire. Ça n'a pas été du goût de tout le monde. Et donc notamment la sécurité lui a fait retirer ses vêtements. Mais ils n'ont pas été vaches quand même, parce qu'ils lui ont filé un t-shirt stand-up pour WWE en échange.
C'est de l'humour noir.
C'est sympa quand même. Il le laisse en slip et en t-shirt, comme les catcheurs.
C'est vrai que c'est assez crédible comme ça.
Ouais, ça doit être ketchup, ouais, je peux trouver dans le site partout.
Ouais, voilà. Ensuite, les premières ventes de WWE SmackDown versus Raw 2011 seraient environ de 224 532 unités pour les États-Unis.
Wow.
Et on estime le double pour le reste du monde. Alors attention, il faut préciser, car ces chiffres sont d'abord pas très précis et concernent seulement le mois d'octobre. Or, rappelons que le jeu est sorti le 26 octobre aux États-Unis et le 29 en France. Le jeu se classe ainsi en 10e position des ventes US pour le mois d'octobre, alors qu'il a été en vente une semaine. C'est balèze quand même. C'est-à-dire sur le quart du mois, le jeu est dans le top 10.
Ouais, c'est impressionnant.
Ouais, c'est pour vous donner un ordre de comparaison, le jeu de Electronic Arts basé sur la MMA, lui ne s'est classé que 74e, alors qu'il est sorti une semaine avant le jeu de la WWE.
Mais le MMA, c'est nul.
C'est vrai qu'ils ont pas de néon. Et ouais, en tout cas, 400 à 500 000 ventes sur le monde entier, on se dit qu'ils doivent faire une marge bien de peut-être une dizaine d'euros par épisode. Ça rapporte quand même, ça rapporte quand même plus qu'un film, un film avec John Cena ou avec le
Pikachu. 10 dollars. Attendez, Reddit a rapporté 10 dollars.
Ouais.
Dans les salles. Dans les salles, dans les salles. Après, ils le vendent.
Oui, après, ils le vendent direct.
Oui, c'est infâme.
Non, c'est pas. J'avoue, c'est un nanar, mais il est marrant, quoi. Il est divertissant. Enfin, c'est un film pour enfants, quoi.
Tout à fait. Ouais.
Ensuite, donc, je vais vous donner des nouvelles un peu de Funaki, si vous en rappelez un peu. Voilà, le gars qui est rentré sur Kung Fu Fighting. Il avait été licencié le 22 avril dernier en compagnie d'autres catcheurs comme Jimmy Wang Yang, Carlito ou encore Mickey James. Ce qui d'ailleurs me donna l'occasion de traiter le sujet par une petite vidéo qui fut à l'origine de la légende. Enfin bref, je m'envoie des fleurs. Eh bien, l'ex Kung Fu Fighter s'apprête à ouvrir une école de lutte à San Antonio. Donc pour les fortifiants géographiques San Antonio, c'est au Texas. En association avec la River City Wrestling, une école de lutte basée à San Antonio. Funaki commencera ses cours à partir du 15 janvier prochain. Enfin, dans une interview datant du 30 novembre accordée au SEM, Bret Hart révèle qu'il pourrait envisager dans le futur de travailler avec la TNA, à condition toutefois qu'Hogan et Bischoff ne soient plus. À l'époque, les Hitman avaient rejoint la WCW. Bischoff n'avait pas su l'utiliser correctement ainsi que d'autres catchers, ce qui l'amena à penser que contrairement à BKM, Eazy-E ne connaît rien si peu au catch. Enfin, si Hogan sait se mettre en valeur, il n'est pas capable de pouvoir faire la même chose pour les autres catchers. Ça c'est Bret Hart qui le dit. C'est Bret Hart qui le dit, hein. Bret ne peut donc pas en gros revivre ce qu'il a vécu avec le WCW, on peut le comprendre. Et donc, pour finir, pour ceux qui suivent la TNA, Dixie aurait laissé entendre, il y a quelques jours de cela, vers le 23 novembre, que les London Brawling pourraient être bientôt de retour. Alors, les London Brawling, c'est une tag team qui rassemble Desmond Wolf, l'ancien Nigel McGuinness, et Brutus Magni. Donc, en fait, la tag team avait été mise en suspens suite à des problèmes de santé de Desmond Wolf. Et depuis le mois de septembre dernier, ils devaient à la base affronter les Motor City Machine Guns, les champions en titre, à No Surrender pour le titre. Mais suite à leur forfait, c'était les Generation Me qui avaient dû les remplacer au pied levé, occasionnant là un turn assez bizarre.
Eh bien, voilà. gageons que le retour de Desmond Wolf fera plaisir aux amateurs de catch technique. Ben merci pour tout, pour toutes ces news, Panda. Et donc, ça permet de conclure l'émission sur une note un petit peu culturelle et d'actualité. Et donc, j'en profite pour vous remercier tous encore pour votre participation au podcast. Donc, Canette, merci de nous avoir rejoints pour participer avec nous.
Ben merci à vous. Et puis, merci à tous ceux qui ont écouté le podcast juste là. Il est assez long, celui-ci.
Il est assez long, mais espérons qu'il saura intéresser nos auditeurs. Donc Panda, ben merci pour ta rubrique et pour ta participation.
Bah, de rien, puis comme on dit, plus c'est long, plus c'est bon. Et je conclurai d'ailleurs par un CNB DTC.
Ouais.
Quand j'avais parlé de partie culturelle, ça concernait pas cette partie-là. Donc TDS, merci de nous avoir rejoints un petit peu au pied levé pour faire le nombre. Et puis ta participation fut très bonne malgré le manque de préparation, donc merci.
Bah, merci à vous d'avoir accepté après de nouveaux harcèlements sur la tribune.
Voilà. J'attends le chèque.
Merci, heureusement, prévu d'avance. Oui, et puis pensez à nos comptes en banque. Et puis donc, bah, pour finir, merci beaucoup Sarah de nous avoir accompagnés.
De rien, je retourne au temple du recovery.
C'est bien, fait une offrande de notre part également. Bien.
Pas d'exception, s'il te plaît.
Quoi que. Donc merci à tous, bonne soirée à vous et puis au plaisir pour un prochain podcast. Salut.
Salut. Salut. Salut.
Satisfaction, you independent, got your own things happen. The satisfaction, you independent.